好奇。
Toujours, toujours heureuse de vous retrouver. Cette équipe de grands témoins vous propose effectivement de découvrir le professeur Tshiembe Moïla, le directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France et président de la Fédération des Congolais de l'étranger en France, a cordialement accepté notre invitation. En votre nom aussi, nous lui disons merci et bienvenue, professeur. Quelle est la situation des Congolais vivant à l'étranger? Comment ces compatriotes de l'étranger peuvent-ils aider l'État congolais à mobiliser les recettes? Ces questions seront l'objet de notre seconde partie. Pour l'instant, intéressons-nous à l'homme. Il est grand en taille et en connaissance. Professeur, quel est votre nom? Moïla Tshiembe ou Tshiembe Moïla?
C'est les deux, mon général. C'est-à-dire que Moïla, c'est le nom de mon père et Tshiembe, c'est le nom de mon grand-père. Donc, j'ai les deux. De temps en temps, l'un passe pour être le prénom, l'autre pour le nom, mais tous les deux sont de nom, évidemment.
Donc, ça ne vous gêne pas si on vous appelait Moïla Tshiembe ou Tshiembe Moïla?
Non, c'est la même chose dans mon esprit.
Mais vous n'avez pas de prénom à votre nom. Pourquoi?
Mais, parce que depuis les années 71, de l'authenticité, mais je les avais déjà avant, le processus d'authenticité qui a été proclamé ici en 1971. Et depuis, je gardais les mêmes noms pour éviter non seulement l'amalgame, mais pour être identifié, parce que c'est le même nom qui se trouve sur mes diplômes, c'est le même nom qui se trouve sur mes publications. Tous les amis qui me connaissent sur ces deux noms, donc j'ai préféré les garder pour éviter la confusion.
Je présume que vous aviez jadis porté un prénom.
J'avais un prénom, mais je ne me souviens plus. J'avais un prénom chrétien dont je ne me souviens plus, malheureusement.
À l'école, vous aviez souvent été puni pour avoir contesté l'un ou l'autre professeur. C'était quoi exactement?
Disons que lorsque, notamment les cours liés soit aux mathématiques ou à des chiffres compliqués, bon, il faut avouer que je n'étais pas bon en mathématiques non plus. Donc, tout ce qui semblait non seulement répétitif ou tout au moins trop savant, les calculs matriciels à faire, les équations, sans m'embêter drôlement. Ou bien, je m'arrangeais, bon, chaque fois que besoin se faisait sentir avec des copains pour nous mettre en retrait par rapport à l'enseignant, ou tout simplement lui faire sentir qu'il est l'heure, il faut nous lâcher et qu'on ne peut pas rester encore une minute de plus.
Ce n'était pas de l'excès de zèle?
Non, ce n'était pas un excès de zèle, c'est tout simplement, lorsqu'on a commencé les cours, vous savez, à l'époque, quand on allait chez les catholiques, heureusement ou malheureusement pour les amis de notre génération, les cours commençaient à l'heure et s'est terminé à l'heure. Donc, pendant que la cloche n'avait pas sonné, tout le monde devait rester discipliné derrière son enseignement, etc. Mais c'était très 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 long si d'abord on ne comprend rien et qu'ensuite on se dit même parfois qu'est-ce que je veux faire de ce savoir compliqué des mathématiques, etc.
On ne saurait parler de vos folies de jeunesse, hein, permettez-moi de les appeler ainsi, sans rappeler le nom du père Rombouts.
Le père Rombouts, c'était le directeur de Collège Saint-Louis de Louisbourg, qui est bien connu par tous ceux qui sont passés entre ses mains.
Et du point de vue discipline, il ne vous dit rien son nom?
Ce qui est frappant, c'est que à l'époque, lorsqu'on avait bavardé ou qu'on avait une punition, parce que la nuit, on allumait au-delà des heures, parce qu'il fallait dormir au plus tard, 21h, 21h30. Alors, tout élève qui chahutait ou qui se déplaçait de son lit pour aller, je ne sais pas, papoter avec l'autre, si vous êtes saisi, soit on met la main sur vous, vous êtes puni. Alors généralement, il y avait des punitions graduelles, hein, on pouvait être expulsé pour 2 ou 3 jours de l'établissement, et ce père avait inventé des manèges. Il savait bien que, par exemple, moi, il savait que j'étais né à Tshitapa et que mes parents s'étaient trouvés à 265 km de Louisbourg, et qu'il me demandait, ou je demandais d'ailleurs à beaucoup de jeunes qui étaient expulsés chaque fois que besoin se faisait sentir, d'aller chercher leurs parents, de ramener leurs parents avant de rentrer à l'école. Alors, nous allions à Kamboté, qui et une bourgade
dans
les environs du collège Saint-Louis, nous allions y chercher des parents.
Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, cette histoire.
Le père savait bien qu'il n'était pas là de nos propres parents, parce qu'il savait, il avait la liste, il connaissait bien que nous venions de loin et que nous ne pouvions pas voir les parents là-bas. Et bien entendu, nous allions là-bas, les uns les autres, voir tel ou tel parent, essayer de le dorloter, le convaincre à l'idée de venir nous représenter devant le directeur. Évidemment, plus d'une fois, je me suis fait accompagner de ce parent, mais véritablement
circonstanciel.
Circonstanciel, mais nous avons fini par, comment dire, les adopter comme nos propres parents, parce que moi, par exemple, j'étais souvent puni pour des raisons que je viens de vous indiquer. À force de voir les mêmes personnes, c'était devenu pratiquement mes parents et ce sont eux qui se présentaient régulièrement auprès du directeur pour expliquer telle ou telle chose.
Mais il arrivait que ces mêmes parents-là vous battent en présence du directeur.
Moi, j'ai été battu plus de deux fois devant le père directeur par ses parents parce que c'était une caution pour eux d'obtenir de ce père directeur qu'il accepte que je revienne dans l'établissement parce qu'à un moment donné, il était en colère. À force des répétitions, il voulait m'exclure totalement. Et ce papa est venu me frapper pour montrer que lui aussi le consentait à ce que je sois puni. Et c'est ce qui m'a sauvé la peau, sinon j'aurais été expulsé.
Vous faites vos études primaires et secondaires à Loulouabourg, aujourd'hui Kananga.
Oui.
C'est quand la dernière fois que vous vous y êtes rendu?
La dernière fois, c'est en 1960. Non, 80.
En 1980.
Avant que je ne prenne le chemin de la France, évidemment.
Radio Cassine, grand témoin.
Grand témoin qui s'entretient avec Moï Lachi Mbé, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France et président de la Fédération des Congolais de l'étranger en France. Vous êtes professeur d'université avec deux doctorats à votre actif. Dans quel domaine ?
J'avais fait mon premier doctorat en 1985, une thèse d'état en droit.
En droit. Et la deuxième ?
La deuxième, je l'ai passée 10 ans après, c'est-à-dire en 1995, à l'Université de Nancy II, en sciences politiques.
Est-il facile d'étudier en France ou à l'étranger de manière générale ?
Le troisième cycle, du moment où on a déjà fini l'université pratiquement, lorsqu'on a l'équivalent ou lorsqu'on avait l'équivalent du diplôme congolais de licence, donc on pouvait s'inscrire en DEA, qui est le diplôme d'études approfondies, qui prépare au doctorat. Puis le doctorat, c'est lui d'État qui se faisait à l'époque, mais qui n'est plus là parce qu'il y a eu la réforme. Il y avait des délais, mais qui n'étaient pas déterminés, parce qu'il fallait d'abord faire une thèse de troisième cycle avant de faire le doctorat d'État. Sauf quand on était admis exceptionnellement à présenter selon les évaluations par rapport aux publications, aux notes d'enseignement, etc., ou de recherche, et ça prenait beaucoup d'années. Mais depuis la réforme qui date des années 90, même la France a ce qu'on appelle aujourd'hui le doctorat unique, qui s'est fait après une année de doctorat, le DEA, le diplôme d'études approfondies, qui peut s'acquérir au minimum dans 3 ans ou au maximum 5 ans, s'il y a des justifications nécessaires, etc. Mais c'est facile pour le troisième cycle, alors que pour les étudiants qui viennent en premier cycle, c'est très très difficile lorsqu'on vient de l'étranger d'être inscrit en première année ou en deuxième année, l'équivalent du graduat ici.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que président de la Fédération des Congolais de l'étranger ?
Nous avons créé la Fédération des Congolais de l'étranger en l'année 2001. Il y avait le professeur Elkian Bokolo et d'autres collègues, dont le professeur Tubéné qui enseigne à Maryland aux États-Unis, qui est le président fédéral, et d'autres collègue, le professeur Mobikanguier qui est à l'ULB et bien d'autres que je ne peux pas citer ici, je m'excuserai de ne pas citer tout le monde. L'idée était que la République démocratique du Congo, comme d'autres pays africains, était dans une sorte de bouillonnement entre les années de Mobutu et le passage de témoin vers autre chose qui n'était pas encore significatif que ça allait être. Notre souci était de mettre sur pied cette organisation afin de réfléchir sur ce qu'allait advenir de la République démocratique du Congo, sur l'ensemble des questions qui se posaient à ce pays, d'une part, donc se préoccuper de l'avenir de la République démocratique du Congo, ensuite nous occuper de la communauté congolaise, parce que notre pays a une diaspora qui, bientôt une quarantaine d'années, dépasse 1 million, voire 1,5 million de personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il y a des problèmes spécifiques aux Congolais qui vivent à l'étranger, le problème de séjour, le problème de travail, le problème des étudiants qui arrivent, et puis des clandestins, ceux où on s'appelle le matin en vous disant, ben voilà, on a attrapé un Congolais, qui est-ce qui le reconnaît, où est-ce qu'on peut chercher éventuellement des avocats.
Et ça marche bien?
Disons que on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire, si on est informé que tel ou tel Congolais, je prends le cas de la France, lorsque nous sommes au courant qu'il y a un Congolais qui a été attrapé à tel endroit, qui n'a pas d'avocat, etc., on peut, à partir de Congolais avocats que nous connaissons ou d'autres relations, essayer de mettre un avocat à sa disposition pour le défendre. Ou éventuellement, s'il a besoin de petits moyens, on n'est pas riche, mais enfin, on peut toujours assister, tant soit peu, nos compatriotes qui sont dans le besoin.
Moï Lachi Mbé, vous vivez en France, mais pendant votre séjour à Kinshasa, vous résidez dans la commune de Ngaliema. Guy Roger Nyampala, notre complice, s'y est rendu. Et il tente de nous faire découvrir vos goûts et vos couleurs.
dans cette villa, c'est le calme qui règne, un calme pratiquement d'un monastère. Alors, nous allons donc nous entretenir avec une dame qui vit également dans cette villa. Bonjour madame.
Bonjour.
Madame, qui vous êtes par rapport au prof Moïla Tchiembe?
Je suis sa belle-sœur. Je m'appelle Marie-Louise Kalala.
Madame Marie-Louise Kalala, dites-nous un peu, vous connaissez le prof Moïla Tchiembe depuis combien de temps?
Bon, je connais le professeur depuis 30 ans. Lui, il venait de terminer ses études à l'UNIF. Et il partait pour faire son doctorat en France. Professeur Moïla Tchiembe, c'est quelqu'un de calme, de nature, et un chercheur qui aime beaucoup lire et beaucoup travailler. Et parfois, quand il se met dans ce domaine-là, il oublie qu'il a les gens à côté pour parler d'autres choses, mener la vie familiale, quoi.
Madame, vous avez une idée de ce qu'il aime? Je veux parler de sa gastronomie, ce qu'il aime manger le plus.
Il a gardé la base, comme je peux dire, bien qu'il a passé beaucoup de temps de l'autre côté. Et quand il revient de temps en temps, il aime toujours manger les légumes, le fruit et le foufou.
Et ses loisirs?
À part les recherches, il aime bien faire le sport le matin, un peu de jogging, c'est ça. Et puis, il aime bien pousser les jeunes, comme nos enfants, à faire mieux que ce qu'il a fait.
D'approche.
Bon, ce que j'ai comme reproche, c'est ce qu'on a constaté dans la famille, c'est quelqu'un, vu les recherches, ça devient comme un repas quotidien pour lui. Alors, il trouve que faire autre chose à part son domaine, ça devient un peu plus difficile parce que tout le temps, il faut aller derrière pour lui dire, mais écoute, tu es là, il faut en profiter pour voir tel, rendre visite à la famille. Quoi, c'est ça les petits défauts.
Nous allons devoir nous quitter. Une préoccupation, si vous avez un conseil à prodiguer au professeur Moïla Tchiembe.
Bien qu'on a d'autres préoccupations, on satisfait le travail et ses collègues et tout sur le monde de recherche, mais c'est bien de faire aussi un pas, avoir une minute pour mener une vie familiale.
Nous avons pratiquement terminé. C'était pour nous un grand plaisir de nous entretenir avec vous. Merci, madame.
Merci à vous, autant.
Merci à Guy Roger Nyampa, la professeure. Vous avez pratiquement explosé là de rire, réaction.
Mais j'avoue que je suis, comment dirais-je, un peu ému parce que ma belle-sœur, depuis que je la connais, il y a une trentaine d'années, je ne l'ai jamais entendue
parler de vous,
parler de moi. C'est ça, comment dire, pas du tout. Non, mais elle n'a fait que dire des choses réelles, évidemment. Vous savez, la recherche ou l'enseignement, lorsqu'on a passé le plus clair de sa jeunesse à lire, à réfléchir, parfois, effectivement, on ne se rend pas compte des gens autour de soi. Je pense que ce qu'il dit est tellement juste que on fait un effort, mais souvent, on ne s'en sort pas. On est un peu, comment dire,
pris en otage.
C'est une sorte de drogue pour nous. Là, parce que quand il y a des amis qui viennent ou que j'ai un sujet à traiter, parfois, à force de s'y impliquer, on oublie un peu le monde autour de soi.
Et même quand on lui a posé la question à propos de vos loisirs, elle a commencé par la recherche.
Ben, justement, c'est tellement prégnant.
C'est une partie de vous-même. Ben,
c'est vraiment une seconde nature, évidemment.
Exact.
C'est une seconde nature.
Professeur Moïla Tchiembe, nous avons un invité au bout du fil. C'est le professeur Philippe Bioya. Bonjour, professeur Bioya. Vous nous entendez?
Oui, je vous entends. Bonjour.
Le prof est très ému. Je l'ai vu. Il a sursauté en entendant votre nom. Il vous rappelle quelque chose, Moïla Tchiembe?
Certainement. Tchiembe, c'est un maître. Il était pour nous, qui étions ses étudiants à l'époque où je l'ai rencontré, un assistant qui était hors pair, hein. C'était un garçon qui était brillant, qui était polyvalent et qui nous a donné en fait le goût de la recherche. C'est un garçon qui, par son être scientifique, était difficile à gérer par ceux qui étaient nos professeurs, qui étaient nos maîtres.
Il a hoché la tête avec beaucoup d'émotion, je vous rassure. Professeur Moïla, réaction.
Mon collègue, le professeur Bioya, c'est un de
votre disciple et collègue.
Il faut avouer que c'est parmi les étudiants, j'ai eu la chance d'avoir été l'assistant de professeur Durkatonde, que je remercie en passant, qui m'avait responsabilisé. J'étais un jeune assistant, qui m'avait donné un séminaire de relations internationales. Parmi les premiers étudiants que j'ai eu sous la main, il y a mon collègue professeur Villoyard, qui était parmi les étudiants les plus brillants que j'ai eu dans mes premières années d'enseignement. Il était devenu pratiquement un collègue, un copain, parce que entre autres lui et deux ou trois autres étudiants de sa promotion, on est resté pratiquement amis tout le temps que j'étais assistant et que depuis qu'il nous a rejoints, et chaque fois qu'on a besoin de se faire sentir, on est dans une communion d'intérêts et surtout de communion de pensée.
Professeur Biyoya, une question qui gêne peut-être. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Moïla Tchiembe?
Non, tel que je le connais, hein, tel que je le vois encore aujourd'hui, parce que comme il dit le nom là, je suis resté en fait attaché à lui. Il m'a donné son amitié alors qu'il était en fait mon maître. Je n'ai pas cherché à avoir en lui ce qui n'allait pas.
Professeur Biyoya, alors pour célébrer ses retrouvailles scientifiques et humaines, pouvez-vous lui dédicacer une chanson?
Comme dédicace, je crois que je voudrais que vous lui souviens une chanson qu'il restitue non pas dans des élections scientifiques, mais qui l'amène un peu dans ce que je pense qu'il devait jouer comme rôle de responsabilité politique. Par exemple, si vous avez les disques indépendants chez Tchatcha, pour nous rappeler un peu le souvenir de l'indépendance, parce que cette indépendance aujourd'hui, je crois qu'il nous échappe et qui aimait à le devoir de faire que cette indépendance demeure et qui nous échappe pas.
Alors, professeur, restez avec nous pendant que nous dégustons cette belle chanson.
Indépendant, Tchatcha,
alors, professeur Moïla Tchiembe, cette chanson, elle vous fait penser à quoi?
Enfin, nous étions encore petits, j'avais à peine 8-9 ans quand j'ai entendu cette chanson. C'était le sens que quelque chose venait de finir, c'est-à-dire la colonisation de notre pays, et quelque chose allait commencer, c'est-à-dire l'indépendance et la responsabilité du Congo, et la vie meilleure pour les Congolais. Mais malheureusement, même si cette indépendance a été un moment fort, d'émancipation politique, la situation chaotique de notre pays, l'assassinat du Premier ministre Sassou Nguesso, le coup d'État de celui qui est devenu le Marcel Mobutu, tout ceci a tellement pesé sur l'avenir de la République démocratique du Congo qu'à ce jour, notre pays qui avait un bel espoir, comment dire, qui était à l'époque, les années 57, 58, 59, avec un PNB supérieur à celui de l'Afrique du Sud, du Mexique et même ce qu'on appelle les lagons d'Asie, aujourd'hui est parmi les pays les plus pauvres de la Terre, alors que potentiellement, il a des ressources, il a des hommes compétents, dévoués, mais malheureusement, tout ceci a été dévoyé, et c'est peut-être le seul regret qu'on puisse avoir.
Alors, c'est plutôt l'occasion que nous saisissons de souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les auditeurs de Radio Okapi. Oni pada tata tonu mi, professeur Bioya, un petit mot pour clôturer cet entretien à moi et la KMB.
D'abord, je voudrais le saluer et lui souhaiter bonne fête d'indépendance et espérer certainement qu'il me donnera l'occasion de collaborer avec lui dans ses multiples recherches dans le cadre de sa nouvelle géopolitique africaine, parce que KMB, c'est un homme qui a beaucoup d'idées, qui a un grand savoir. Je lui réitère ma sympathie et mon amitié.
Merci, professeur Bioya, et bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Radio Kati, grand témoin.
Grand témoin vous présente Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France et président de la Fédération des Congolais de l'étranger en France. 177 Congolais sans papier vivant aux Pays-Bas seront bientôt rapatriés. L'annonce avait été faite à Radio Okapi par le chef de mission adjoint à l'ambassade de ce pays à Kinshasa le 31 mai dernier. Pour le gouvernement hollandais, c'est un retour dans la dignité dans la mesure où la plupart des concernés ont accepté volontairement de rentrer au pays, leur séjour étant devenu illégal faute de papiers valables. Seront rapatriés de force tous les coupables d'actes criminels. Une prise en charge financière de réintégration leur sera allouée, 100 euros pour chaque mineur, 500 pour les adultes et 1000 pour des familles de plus de 3 enfants. André Delevoet était alors joint au téléphone par Daniel Tambizioni.
La plupart de ces Congolais sont d'accord avec rapatriement volontaire. C'est seulement les exceptions qui méritent des mesures un peu plus forcément quand il s'agit des Congolais. Criminels, par exemple, ce sont des Congolais qui ont donné beaucoup de problèmes aux Pays-Bas.
Les Congolais, ils sont partis pour de besoins évidents, des besoins réels. Les Pays-Bas estiment que ces besoins n'ont plus de raison d'être.
Non, les besoins sont là, ça c'est clair. Quand tous les moyens légaux sont déplis, c'est nécessaire pour eux de retourner à leur pays. Et c'est pour cette raison que le gouvernement néerlandais a mis disponible une contribution financière.
Moi, il a dit, mais de manière générale, il n'est pas facile d'être Congolais à l'étranger. Hein?
J'avoue qu'on est un peu désabusé, la Fédération des Congolais de l'étranger, comme d'autres organisations des Congolais à l'étranger. Nous sommes sur la brèche depuis des années. Face à la situation, il faut bien avouer, chaotique de nos compatriotes qui arrivent dans des conditions parfois inattendues. Mais notre main, d'autres sont accusés des délits, voire des crimes. Et on vous téléphone la nuit pour vous dire, il y a un compatriote à vous qui a tel endroit, pouvez-vous venir nous voir et nous expliquer quel crime ou quel délit il a commis, alors que vous ne le connaissez pas, vous n'êtes même pas au courant. Ce qui lui est arrivé, on a cours, on cherche des avocats. Malheureusement, la situation chaotique de nos ambassades et consulats fait que souvent on est pris au dépourvu, on n'a personne à qui s'adresser et la plupart de nos compatriotes sont abandonnés à eux-mêmes. Dieu merci que certains gouvernements, comme celui des Pays-Bas, il y a quand même des gouvernements qui respectent encore la dignité humaine, c'est-à-dire que même s'il y a des brutalités ça et là, la plupart des gouvernements européens, pour ne parler que de l'Europe, même plus près de nous, se comportent correctement vis-à-vis de nos compatriotes. Bien entendu, cet exil forcé pour beaucoup de ces jeunes qu'on appelle les Mbakazoto, c'est-à-dire ceux qui ont décidé à leur corps perdu de s'élancer aux Bastilles européennes, croyant pour la plupart du temps y trouver de quoi manger et boire. Et malheureusement, la vie pour certains d'entre eux se termine ou en prison ou dans la mort atroce à travers les mers et les océans.
Nous allons prendre les préoccupations, il y en a beaucoup de nos auditeurs. Prenons cet auditeur de Bukavu.
Frédère Baomé, appelant de Bukavu, en province du Sud-Kivu. Pour se relever, la RDC a également besoin de bras et de cerveaux de ses ressortissants vivant à l'étranger. Comment ceux-ci doivent-ils faire pour contribuer efficacement à la reconstruction de la RDC?
Comment la diaspora peut-elle contribuer à la reconstruction de la RDC, Moïla Tchiembe?
Il y a 2 ans, la Fédération des Congolais de l'étranger avait organisé un congrès à Washington. Ce congrès avait pour objectif de conscientiser ou tout au moins de débattre avec les Congolais pour savoir quel peut être l'impact, notamment l'impact financier, qu'est-ce qu'on peut réunir comme moyen pour participer autant que l'on peut, tant soit peu, au financement des activités productives en République démocratique du Congo. On a eu l'idée qu'il fallait lever un actionnariat congolais pour constituer quelque chose, je ne sais pas s'il faut l'appeler banque ou mutuelle ou structure de crédit, pour pouvoir aider les petites et moyennes entreprises.
Et ça a déjà commencé?
C'est-à-dire que l'audit est presque terminé. Nos experts ont déjà rendu les papier. Il reste maintenant à convoquer un débat général à la fois pour les Congolais d'Amérique, les Congolais d'Europe, ceux d'Afrique aussi, parce qu'il fallait d'abord avoir des assurances juridiques au regard du droit congolais.
Disons que c'est en cours.
C'est en cours.
Prenons alors cet auditeur de Kinshasa.
Docteur Mbaye à Kinshasa. Ma question, c'est par rapport à la valorisation des compétences ou des cerveaux congolais à l'étranger. Un pareil projet implique un rapatriement ordonné et organisé des milliers de compatriotes vivant à l'étranger. Or, les conditions qu'ils posent, ils veulent rentrer moyennant de bonnes conditions de vie et de travail. Avec le gouvernement actuel, il se pose le problème de moyens. Le gouvernement n'a pas de moyens et le gouvernement a de multiples priorités. Pensez-vous que ce projet est réalisable dans les 5 ans qui suivent?
Je ne pense pas qu'il s'agisse de rapatriement. On peut parler de mobilisation. Mobilisation, oui. Moi-même, je viens de donner des enseignements à l'université de Lubumbashi pendant un mois et le mois dernier, j'ai passé en donnant des enseignements à l'université de Kisangani. C'est du bénévolat. Nous venons gratuitement enseigner dans les universités ou dans les instituts supérieurs. Il y a des collègues congolais, médecins, ingénieurs qui sont prêts, d'autres sont déjà venus, pour mettre dans la cagnotte du Congo leurs compétences et leur dévouement.
Donc, de manière claire, professeur, ce n'est pas réalisable dans les 5 ans.
Non, on peut réaliser quelque chose. Il y a déjà de la disponibilité. Beaucoup de Congolais viennent investir dans ce pays depuis les années de transition. Il y a des Congolais qui sont dans le transport, qui sont dans l'alimentation, qui sont dans le secteur pharmaceutique, etc. Beaucoup de Congolais ont investi dans ce pays. Ils souhaiteraient encore investir davantage, à condition, bien sûr, qu'il soit créé un cadre juridique et politique rassurant qui permette à tout investisseur de se sentir à l'aise dans son propre pays.
Allons à Kisangani.
Je suis chercheur activiste de droits de l'homme. Ma question est à partir de Kisangani. Je m'adresse directement au président des Congolais de l'étranger. On voulait connaître la grande contribution des Congolais qui sont à l'étranger vis-à-vis de notre situation locale ici et s'ils sont vraiment plongés dans les lobbying par rapport à la situation socio-politico-économique des Congolais qui sont en train de traverser dans cette crise.
Je disais tout à l'heure que pas mal de Congolais n'ont pas attendu la fin de la transition. Il y a des Congolais qui s'investissent comme entrepreneurs dans tous les secteurs de la vie. Je parlais de transport, je parlais de secteur pharmaceutique, je parlais de l'alimentation, enfin, de tout ce qui est service. Il y a beaucoup de Congolais qui se sont investis et qui continuent à s'investir. Le problème qui se pose, c'est que quelle est l'ampleur de l'investissement congolais dans le devenir du Congo, prévisible d'ici 5 ans, pour ne parler que de la mandature actuelle, et après, tout ceci est non pas en discussion, parce qu'il y a déjà des gens qui sont sur place, qui ont créé des entreprises. Beaucoup ont même rencontré des difficultés et ont été contraints, soit de voir leurs affaires en faillite, ou tout au moins par la bureaucratie, et donc d'autres tracasseries. Il y a beaucoup de Congolais qui ont abandonné leurs affaires et qui sont rentrés dans leur pays d'accueil. On avait souhaité et espéré que, avec le gouvernement de la Troisième République, la question de l'investissement, est-ce qu'il faut, au-delà du code de l'investissement qui est destiné à l'attractivité des investissements étrangers, donc destiné en gros, dans la vision du gouvernement, aux investisseurs étrangers, je veux dire, excusez-moi le terme, blanc, on n'a pas vu que les Congolais de l'étranger peuvent être aussi investisseurs au Congo. Est-ce qu'il faut adapter le code de telle sorte que l'investissement des Congolais, je ne peux pas parler des avantages particuliers, mais de créer les conditions d'incitation par la fiscalité, par tous les moyens que l'État peut avoir pour inciter ces Congolais à investir, notamment dans les chantiers du pays.
Professeur, il nous reste 20 secondes pour terminer cette émission. Rapidement, dans 5 secondes, qu'est-ce que vous pensez de la double nationalité?
C'est une question qui est devant nous. Nous avons soulevé cette question pendant la transition. Il nous a été répondu que le Parlement des transitions n'avait pas compétence pour le faire. La double nationalité est liée à la nationalité congolaise d'origine. Alors, tous les Congolais d'origine le sont, non pas parce que l'État congolais a attribué cette nationalité, mais parce qu'ils appartiennent à tel ou tel. Si on est Congo, si on est Nandé, si on est Fuliro, on est Congolais d'origine par l'appartenance ethnique. Donc, en conséquence de quoi, même s'il y a le principe explicite selon lequel la nationalité congolaise est une exclusive, mais dans la mesure où l'État congolais n'a pas la qualité juridique de donner la nationalité d'origine, les Congolais d'origine, par le fait qu'ils sont Nandé, qu'ils sont Congo, qui sont éthiopes, qu'ils sont lundes, etc. Et le demain, nous souhaitons une discussion vive avec le gouvernement pour l'aider à réfléchir sur le fait qu'il faut ouvrir le champ de la double nationalité au regard des Congolais d'origine, parce que ces Congolais et leurs descendants sont des Congolais et ils souhaitent le demeurer. Et d'ailleurs, je rappelle ici que dans la cosmogonie africaine, un lunda de New York comme celui des Kapanga ou des Musumba, il le demeure, qu'il soit vivant au moins.
Merci, professeur. Grand témoin qui recevait Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France et président de la Fédération des Congolais de l'étranger en France. Nous lui disons merci d'être venu. L'équipe de production de Grand Témoin, Guy Roger Nyampala, Nadine Foula et Héritier Sidiakala, vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne suite de programmes sur la Radio Capitale.